Une étude menée par des chercheurs de l'université de Genève et publiée hier dans la revue Andrologie alerte sur la baisse de qualité du sperme des jeunes Suisses. Ces derniers feraient partie des Européens les plus touchés par cette baisse de qualité. Le phénomène n'est pas nouveau, il s'inscrit dans la lignée de ce qu'ont déjà montré de précédents travaux. Comment l'expliquer? Qu'en est-il en France? Les pays industrialisés sont-ils les plus touchés? Bonjour Jean-Philippe Vol, vous êtes professeur à la faculté de médecine de Paris Descartes. Vous travaillez au centre de l'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Cochin à Paris et vous êtes chercheur à l'INSERM. Alors que nous apprend cette étude menée par l'Université de Genève? Est-elle d'ailleurs inédite?
Bonjour. Écoutez, non, cette étude n'est pas inédite. Je suis d'ailleurs un petit peu surpris parce que c'est connu depuis quand même pas mal de temps. Il y a des rapports entiers maintenant qui ont été faits par l'INSERM et puis différents. Il y a une liste de publications extrêmement importante. La diminution de la qualité du sperme, ça remonte dans les années 70. Et nous avons déjà dans le service publié en 95 dans le New England Journal of Medicine une étude tout à fait démonstrative au cours de laquelle on a pris la qualité des spermes de donneurs. Vous voyez, parce que le SECO, c'est une banque de spermes en fait, de donneurs. Alors, jusqu'à maintenant, jusqu'à la dernière loi de bioéthique, les donneurs étaient des hommes pères de famille. Donc, ils étaient fertiles. Et on avait constaté que entre les années 70 et 2000, la qualité des hommes fertiles, la qualité de leur sperme avait diminué de 1 million de spermatozoïdes par ml et par an. C'est-à-dire que c'est passé de 60 millions de spermatozoïdes par ml à 40 millions en 20 ans, quoi.
La définition d'un sperme de bonne qualité est assez simple, Jean-Philippe Wolf.
Oui, c'est le sperme qui met une femme enceinte, quoi, grosso modo. Alors, l'OMS a d'ailleurs fait des études et puis a émis des normes sur la base justement de l'analyse des spermes d'hommes dont la femme est enceinte. Et puis, on a quelques valeurs que je peux vous donner qui sont assez simples. Il faut que le volume soit supérieur à 1,5 ml. Il faut qu'il y ait plus de 15 millions de spermatozoïdes par ml et que la totalité de la numération soit supérieure à 39 millions. Des choses comme ça. Avec ça, que vous ayez 40, 60 ou 120 millions de spermatozoïdes dans votre éjaculat, la probabilité de mettre une femme enceinte est la même.
Alors, qu'est-ce qui se passe depuis les années 60 ou 70 si vous dites que les études témoignent d'une diminution de la qualité du sperme depuis cette date?
Ben, c'est essentiellement les perturbateurs endocriniens qui sont à l'origine de cette baisse. Quand vous faites du bœuf aux hormones, et que c'est de l'estradiol que l'on donne aux hommes, qu'on donne aux bêtes de manière à ce qu'elles prennent du poids, et qu'après vous mangez le bœuf, vous mangez l'estradiol qui était fait avec. L'estradiol, ça diminue la spermatogénèse chez les hommes.
Alors ça veut dire que les végétariens auraient un meilleur sperme?
Non, parce qu'il y a des pesticides. Justement, il y a... aux États-Unis, il y a des cas d'infertilité de végétariens et de végétariennes, plus exactement, qui sont dus aux pesticides qu'il y a sur l'agroalimentaire végétarien.
Et puis on explique aussi qu'il y a dans le soja des perturbateurs endocriniens également. Donc comme exactement, les végétariens mangent peut-être trop de tofu, et alors du coup, ça s'est accentué depuis les années 60-70, docteur ?
Absolument, absolument. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que il y a des effets cumulatifs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un produit, alors on va prendre le bisphénol, les phtalates, qui ont des normes, alors bien sûr les pouvoirs publics sont intervenus dessus, ont essayé de limiter, vous savez qu'on a interdit le bisphénol par exemple dans les biberons des bébés. Ceci dit, comme vous avez des associations, c'est-à-dire que vous allez manger du soja là, puis vous allez manger, je sais pas, une poire qui a été, puis vous allez avoir l'association des deux dans votre alimentation qui va être beaucoup plus délétère que chaque chose prise individuellement.
On comprend le lien de cause à effet, professeur?
Oui, bien évidemment. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, vous mangez de l'estradiol, vous diminuez votre spermatogénèse automatiquement. Mais il y a des choses plus graves et plus conséquentes. C'est les perturbateurs endocriniens qui induisent des maladies. Ben, chez la femme enceinte, par exemple, la femme enceinte, si elle est exposée, elle va pouvoir faire des troubles épigénétiques chez l'enfant et être à l'origine de maladies chez son garçon.
Bon, alors en tout cas, il vous reste quelque chose à expliquer. Et pourquoi en Suisse particulièrement? puisque c'est la dernière étude. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que c'est lié, je ne sais pas, au mode alimentaire, le chocolat?
Très probablement. Je veux dire, les différents sécours en France, par exemple, ont fait des études régionales du côté d'Amiens, dans Languedoc, etc. Et on s'est aperçu que la qualité du sperme n'est pas la même partout. Assez curieusement, par exemple, elle est meilleure à Paris que dans d'autres endroits. Et bon, bien sûr, à Paris, on n'est pas en train de répandre Monsanto dans les rues de la ville, alors que dans des champs, il y a des pesticides qui sont étendus à grande quantité. Et donc, il y a des disparités comme ça. Il y a aussi, assez curieusement, des professions qui sont plus exposées que d'autres.
Lesquelles?
Par exemple, j'ai entendu que les professeurs ont un sperme de meilleure qualité que les instituteurs, par exemple. C'est assez drôle. C'est une étude qui avait été faite à l'MGEN.
Là, vous réussissez à trouver une explication, parce qu'il peut y avoir là aussi des corrélations sans cause.
Non, là, on ne va pas spécialement chercher. Mais enfin, en tous les cas, pour les disparités régionales, c'est très clair. Ouais.
Et alors, à l'échelle individuelle, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Est-ce que les cas de stérilité masculine, ou en tout cas les difficultés de procréation, peuvent être atténuées, je ne sais pas, moi, par des pratiques alimentaires différentes, par une moindre exposition au bisphénol et à ce type de perturbateurs endocriniens, encore que c'est un peu compliqué de faire ça, docteur.
C'est un petit peu compliqué de s'en abstraire complètement, mais par contre, on peut ne pas fumer, par exemple.
Oui.
Voilà.
C'est une possibilité qui est offerte au genre humain.
C'est ça. Il y a aussi une chose qui est assez curieuse. Je veux dire que la température, vous savez pourquoi les testicules sont en dehors de la cavité abdominale?
Non.
Voilà. La spermatogénèse a lieu à 34 degrés. Alors que les ovaires chez la femme sont gardés à 37. Ce qui fait que 34 degrés, parce que la spermatogénèse se fait à 34 degrés, mais si votre température des testicules monte à 37, ça inhibe la spermatogénèse. Si vous mettez des slips très serrés, vous allez réduire la spermatogénèse.
Donc, c'est même il faut favoriser les caleçons.
Exact.
Il faut favoriser les caleçons. Et alors, toujours parmi les différentes hypothèses qui sont aujourd'hui étudiées par les scientifiques, on parle beaucoup de l'eau. Est-ce que il y a véritablement une incidence de l'eau de boisson dans ce type de problème ou les problèmes éventuels, professeur?
Bien évidemment. Je veux dire, tout dépend comment l'eau est conservée. Si vous mettez l'eau dans des flacons en plastique qui sont particulièrement remplis de perturbateurs endocriniens, le plastique est assez dangereux, hein, non seulement parce que ça en fait un continent en plastique sur les mers, mais parce que ça relargue énormément de produits qui peuvent être toxiques, effectivement.
Merci beaucoup, professeur Wolf. Je rappelle que vous travaillez au Centre de l'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Cochin à Paris, et vous êtes également chercheur à l'INSERM. Il est 7h20 sur France Culture.